7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Au lendemain de la journée de mobilisation du 10 décembre et après de longs mois d'arbitrage, le gouvernement s'apprête aujourd'hui à lever le voile sur sa réforme des retraites. Assiste-t-on à un moment de vérité dans le conflit social? Le gouvernement parviendra-t-il à calmer les inquiétudes ou va-t-il au contraire raviver les colères? Pour en parler, j'accueille Yves Verrier. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière et vous avez les honneurs du Canard Enchaîné qui cite des propos que vous avez tenu, vous avez dit aux Parisiens, je ne négocierai pas la mise en œuvre de ce que je qualifie de monstre. Alors c'est un monstre, la réforme des retraites?
Oui, en réalité, à ce moment-là, l'image qui me venait, c'était celle de Frankenstein. J'ai dit que ce projet de régime unique par points, c'était un peu le Frankenstein des retraites. La créature échappe à ses créateurs parce que, à l'évidence, on nous a dit, par exemple, que c'était un engagement de campagne pour justifier le fait que ce projet était légitime, et porté par le gouvernement donc depuis sa mise en place. C'est-à-dire que ça fait plus de 3 ans maintenant que le gouvernement porte ce projet, qu'il a mis en place ce qu'il appelle des concertations qui ont duré plus de 2 ans et il doit s'apercevoir aujourd'hui que pour autant il n'est toujours pas parvenu ni à convaincre concrètement du bien fondé de l'avantage que produirait ce projet par rapport à la situation actuelle. Et il nous disait encore, le Premier ministre, vendredi dernier, qu'il y aura sans doute encore besoin d'expliquer. Donc, moi j'ai aussi...
Vous comprenez ce calendrier, ces atermoiements, ou en tout cas ces difficultés d'accoucher enfin d'une réforme?
Mais justement, j'ai le sentiment que le gouvernement ne maîtrise pas bien son sujet. On nous l'a vendu avec des formules qui sonnent plutôt agréablement à l'oreille. Système universel. Bon, ben évidemment, tout le monde est intéressé par ce qui est universel.
On vous l'a vendu quand vous avez rencontré...
Dès le départ. C'est la présentation.
Les négociations auxquelles vous avez participé.
Mais depuis, on a les mêmes éléments de langage. Système universel, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, ce sera plus juste et ce sera plus simple.
Et alors ça, c'est bien ou c'est mal pour vous?
Mais si on s'arrête là, ce serait plutôt sympathique. Le problème, c'est que dès qu'on rentre dans la mécanique, c'est là que je vous dis que le monstre échappe à ses créateurs, parce que dès qu'on entre dans la mécanique, on s'aperçoit en réalité que le gouvernement a été obligé, il a qualifié par exemple de fake news, les simulations qui ont été faites ici ou là et qui démontraient qu'on risquait d'y perdre sérieusement en termes de niveau de pension ou dans d'autres situations. Et à chaque fois, le gouvernement apporte des réponses, est obligé d'apporter des réponses. L'image que j'ai aussi, c'est une espèce de système qui fuit de toutes parts. Chaque jour, une fuite se dévoile, le gouvernement la colmate. Donc, quand un système fuit de toutes parts, on le laisse tomber et on revient au point de départ et... Nous avons beaucoup de propositions, nous des revendications très précises qui répondent à des nombreuses situations qui ont été évoquées dans le cadre de ce projet, qui s'appuient sur le système actuel dont nous pensons qu'il reste moderne, efficace et solidaire.
Les fuites que vous évoquez sont des pensions qui diminueraient fortement si l'on en croit ceux qui font des simulations, parce que le gouvernement ne valide pas aujourd'hui ces simulations et considère même qu'elles ne peuvent pas avoir lieu puisque les détails n'existent pas. Si on rentre dans la mécanique, qu'est-ce qui vous paraît finalement critiquable dans ce système si vous considérez que le système dit universel est un bon système, Yves Verrier?
Tout d'abord, sur les simulations, le gouvernement les critique en disant qu'on ne connaît pas les paramètres. Mais dans ce cas-là, il faut renvoyer au rapport du haut-commissaire qui faisait lui-même des simulations. C'est vrai qu'il avait triché un peu sur quelques paramètres pour essayer de valoriser son projet par rapport à un système dont il allongeait la durée de cotisation pour montrer qu'on y gagnerait. Mais sauf que, évidemment, si on rend plus difficile le système actuel, n'importe quel autre système pourrait apparaître meilleur. Qu'est-ce que je reproche à ce système? Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de simulations pour comprendre. Aujourd'hui, votre retraite dans le régime de base des salariés, celui de la sécurité sociale, 18 millions de salariés actifs. Hein, on nous parle beaucoup des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, les trois principaux, électriciens, gaziers, cheminots et RATP, c'est 325 000 actifs. Donc le régime de base de la sécurité sociale, les 18 millions d'actifs, aujourd'hui, vous constituez vos droits à partir de trimestres que vous validez dès que vous avez travaillé au minimum un mois, vous validez un trimestre. Et lorsque vous avez votre durée de cotisation et que vous êtes en âge de pouvoir liquider votre retraite, 62 ans aujourd'hui, votre retraite est calculée sur la base des 25 meilleures années. Donc on prend votre salaire moyen sur les 25 meilleures années de votre activité, de votre vie active, sur les 42 ans de cotisation qu'il vous aura fallu valider. Demain, vous devrez acheter des points dès votre entrée dans la vie active et à quel moment vous entrerez vraiment dans la vie active avec un boulot à durée pérenne et à temps plein, c'est déjà la première difficulté. Vous aurez très souvent, c'était tout l'enjeu des négociations sur l'assurance chômage, malheureusement des embauches en contrat court et en contrat très court. Donc acheter des points dans ces conditions-là, ça va être quand même compliqué. Deuxièmement, très souvent, ceux du temps partiel dans un premier temps, ou des stages pour les jeunes, qui ne valident rien en termes de salaire, donc ne vous donnent pas le moyen d'acheter des points, qui ne valident d'ailleurs pas aujourd'hui de cotisation pour la retraite, de trimestre. Hein. Donc nous, on a une revendication là-dessus. Quand vous êtes femme, vous êtes souvent plus souvent confiné à des petits salaires. Donc vous voyez bien, quand vous serez senior à 53, 54, 55 ans, que vous n'avez plus d'emploi et que vous avez du mal à retrouver un emploi, ce qui est malheureusement une situation majoritaire pour les seniors quand ils se retrouvent au chômage, eh bien vous aurez bien du mal à vous acheter des points. En clair, vous allez tout le long de votre vie active avoir beaucoup de mal à vous constituer ce capital de points. Et le moment venu à 62 ans, quand vous pourrez transformer ce capital de points chèrement et durement acquis en retraite, vous serez dépendant de la valeur de service du point, c'est-à-dire ce que vaudra votre point quand vous le transformez en retraite. Et cette valeur de service du point, c'est tout l'enjeu de ce que moi j'appelle un régime unique par points. Elle sera définie en dernier ressort par le cadrage financier sous tutelle de l'État. Donc vous avez bien compris, en réalité, ce ne sera pas plus simple, ce sera pas plus juste, ce sera sûrement plus compliqué et incertain.
Bon, mais vous avez un problème, y verriez, pas seulement Force Ouvrière, d'ailleurs l'ensemble des Français, le gouvernement estime que les retraites pèsent aujourd'hui pratiquement pour le quart du déficit public, une somme qui est en augmentation rapide du fait du vieillissement de la population. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il faut une réforme profonde des retraites ?
Alors, là aussi, il faut faire très attention. Vous savez, on est dans une société de la communication à tous azimuts. Les éléments de langage sont maintenant très utilisés professionnellement. Vous me dites déficit. On parle souvent de déficit en termes de dépenses. On a plus de dépenses que de recettes. Les retraites représentent, vous me dites, un quart du déficit public. Parce qu'on parle des retraites en termes de dépenses. Mais ça n'est pas une dépense, ce sont les prestations de retraite, ce sont des cotisations des salariés qui sont investies immédiatement pour payer les prestations de retraite des salariés à la retraite. Et tout ça, ça ne part pas dans un bas de laine, c'est pas une dépense à fond perdu, c'est immédiatement réinjecté dans l'économie. Les retraités, comme tout un chacun, consomment au quotidien. Ils se nourrissent, ils se logent, ils se déplacent. Quand ils sont en forme, ils font peut-être un peu plus de tourisme qu'ils n'ont plus à le faire s'ils ont suffisamment de pension, donc ils font marcher une activité touristique. Quand ils ne sont
donc
plus
il faut
trop
pas
en forme, il crée des emplois à la personne.
Donc il ne faut pas toucher à ce système-là parce qu'il crée du déficit. Alors certes, on peut avoir une optique keynésienne, ce qui semble être la vôtre, et considérer que tout cela sert la consommation. Pas complètement d'ailleurs, parce que les retraités ont le droit aussi d'épargner. Dans ces conditions, vous ne voudriez pas modifier ce système ?
Le problème, encore une fois, parce que c'est la question de l'espérance de vie, de l'équilibre entre actifs cotisants et nombre de retraités et durée de la retraite aujourd'hui, qui est une réalité. On peut pas balayer ça d'un revers de main, bien évidemment, mais il faut mettre tout dans la balance. Aujourd'hui, on a encore 5 500 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en obligation de rechercher un emploi. On n'en indemnise que moitié au passage hein, parmi ceux-là. C'est-à-dire que moitié d'entre eux, aujourd'hui ne valident pas de cotisation retraite et demain n'achèteront pas de points de retraite. Hein. Ce ne sera pas mieux avec le système par points de ce point de vue. Il y a des choses à améliorer, y compris dans le système aujourd'hui, mais le système par points n'améliorera rien en soi de ce point de vue. Donc on a 5 500 000 demandeurs d'emploi d'emploi. On a un salarié senior sur deux qui, le moment venu, n'est plus en activité quand il liquide sa retraite. On a beaucoup de précarité. C'est le Premier ministre qui, dans son discours de politique générale au mois de juin, disait devant l'Assemblée nationale, nous n'en avons pas fini avec le chômage de masse et la précarité. C'est cela qu'il faut d'abord résoudre. Il ne faut pas adapter le système de retraite à une société de chômage massif et de précarité devant lesquelles les gouvernements auraient définitivement abdiqué, considérant qu'on n'arrivera pas à véritablement résoudre ce problème-là sur le plan économique. C'est à cela qu'il faut s'attaquer.
Yves Verrier, vous avez déclaré lundi dernier sur l'antenne d'RTL, demain, l'enjeu pour les manifestations d'hier, donc, c'est d'être plus fort que nous n'étions jeudi dernier. La mobilisation était en baisse. C'est un désaveu pour les syndicats.
Ce n'est pas un désaveu. Nous aurions souhaité être au moins aussi nombreux dans les manifestations, au moins aussi nombreux dans les appels à la grève. Nous avons fait très fort le 5 décembre, hein. Tout le monde l'a remarqué, y compris par rapport à des mouvements précédents, notamment sur les questions de retraite ou de sécurité sociale en 95. Le 5 décembre était une espèce de record en termes de participation à la grève et de participation aux manifestations. Donc nous avions marqué un grand coup. C'était important parce qu'il fallait montrer justement que ce n'était pas tel ou tel régime spécial, que c'était bien l'ensemble des salariés qui avaient compris et qui soutenaient la nécessité de faire comprendre au gouvernement qu'il nous faut être entendu, qu'il faut qu'il revienne à la raison, qu'on revienne autour de la table de négociation sans préalable. Donc ce 5 décembre était très fort, évidemment. Quand vous êtes syndicaliste, vous entraînez, vous avez envie que ça soit au même niveau. C'est plus compliqué pour tout le monde. On a préparé depuis un mois le 5 décembre. Là, en 2-3 jours, il fallait le réaliser dans une situation où il y a la grève qui empêche et met en difficulté les grévistes comme les usagers des services ou des secteurs qui sont en grève, bien évidemment. Donc les conditions de réussite de la mobilisation sont plus difficiles. Cela étant, vous savez, si on avait eu le ministère de l'Intérieur donne près de 400 000 hier partout en France, si on les avait eu le 5 décembre, nous aurions déjà considéré que c'était une mobilisation importante et tous les commentateurs l'auraient sans doute considéré comme
donc,
ça.
Donc vous êtes donc, satisfait.
Hier encore, c'était important, et il y a des mouvements de grève, des débrayages, y compris dans le secteur privé.
Imaginez que les contours de la réforme annoncée par Édouard Philippe en fin de matinée ne vous satisfassent pas, ce qui semble être aujourd'hui le discours dominant chez les syndicats. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que l'effritement de la mobilisation hier ne laisse pas augurer d'une difficulté pour vous, les syndicats, de continuer à mobiliser contre cette réforme?
Bien, on va voir cet après-midi. Le gouvernement semble, vendredi dernier, le Premier ministre est intervenu tout de suite, donc je pense qu'ils ont pris la mesure du mécontentement, de la mobilisation. Maintenant, il semble vouloir afficher qu'il veut tenir sur son projet de système universel par
quand
points.
Quand il dit qu'il n'y aura pas d'annonce magique, c'est un peu le signal qu'il vous envoie.
Oui, mais moi, en la matière, je sais pas la magie, j'attends. Je pense que le gouvernement, cet après-midi, va sans doute faire un certain nombre d'annonces, de je ne sais pas si c'est de concessions ou sur les modalités de mise en œuvre pour tenir compte de ce mécontentement, etc.
Alors, il va y avoir, évidemment, dit-on, une transition longue pour les régimes spéciaux, un décalage pour la première génération concernée, et puis l'idée selon laquelle il y aurait une retraite minimale à 1000 euros pour les carrières complètes.
Oui, alors, là encore, il faut faire attention à ce dont on parle. Sur le décalage de la mise en œuvre du projet du gouvernement, évidemment, c'est le produit de la mobilisation. Le gouvernement cherche à répondre à ceux qui...
Mais ça vous satisfait, le décalage ?
Non, ça ne me satisfait pas, parce que le problème que j'ai, c'est le système. Je ne vais pas dire aux générations futures, on a sauvé notre peau, tant pis pour vous, vous vous débrouillerez, parce que nous avons la conviction. Vous savez, nous sommes sincèrement convaincus de la raison de nos analyses, du danger de ce Frankenstein des retraites dont je parle. Ça n'est pas une image, simplement. Plus nous entrons dans les détails, plus nous
disons
que c'est une
erreur. Je crois en votre sincérité, Yves Verrier, mais le problème, c'est que vous avez fixé, vous, syndicat, un mur au gouvernement qui était celui du 5 décembre. Celui-ci, de manière implicite, vous en fixe un autre, qui est le mur du 20 décembre, la date, par exemple, du départ en vacances de nombreux Français pour les fêtes de Noël. Si à cette date-là, il n'y a pas eu de réformes convaincantes, satisfaisantes pour les syndicats, serez-vous en mesure de maintenir la mobilisation et de poursuivre la grève dans les transports?
Encore une fois, notre objectif n'est pas un objectif de durée. Nous ne fixons pas de mur, nous, du 5 décembre. Nous ne fixons pas de mur.
Vous n'avez pas fixé le mur du 5 décembre?
Non, ce n'est pas un mur. C'est une date qui avait été décidée par un certain nombre de secteurs et parce qu'il fallait qu'on y aille tous ensemble, on a choisi la même date.
Mais c'est une date que vous n'avez pas complètement choisi au hasard, Yves Verrier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un mur. Moi, mon objectif, c'est que si le gouvernement nous annonce qu'on revient à la table de négociation sans préalable, qu'on mette de côté cette mauvaise idée et qu'on regarde comment on peut faire en sorte, sur la base du système actuel, d'améliorer les choses encore, de les adapter à certaines circonstances aujourd'hui qui sont nouvelles sur l'emploi, notamment les situations des femmes qui aujourd'hui arrivent à la retraite, qui ne sont plus dans la même situation que les femmes auparavant, où c'était plutôt la retraite du mari, du ménage et la pension de réversion qui était la plus importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui arrivent avec la volonté de préserver leur autonomie financière. Et évidemment, les difficultés qu'elles ont rencontrées tout au long de leur vie active font qu'elles sont en difficulté de se constituer une retraite qui permette cette autonomie financière. Donc, il faut qu'on regarde comment on fait pour améliorer la solidarité en la matière aujourd'hui, qui existe d'ores et déjà dans le système actuel. Après, vous me parlez des 1000 euros. Les 1000 euros, j'ai dit, c'est un peu le Black Friday des retraites, ça.
Le Black Friday.
Mais oui, parce que 1000 euros, on ne sait pas exactement. Ben, vous savez, quand vous faites des soldes, vous dites 999,99 pour pas que ça fasse 1000.
D'accord.
Là, quand vous voulez montrer que vous donnez plus,
une somme psychologique.
Vous dites 1000. Voilà, ça sonne bien. C'est comme plus juste, plus universel, etc. Sauf que 1000 euros, ça signifie quoi? Ça n'est pas les 85% du SMIC, par exemple. On nous avait dit que ce serait le minimum contributif pour une durée de carrière complète. Au passage, dans un système par points, il n'y a pas de durée de cotisation. Vous arrivez à l'âge où vous avez votre capital de points, vous êtes, puisqu'on nous avait dit vous serez plus libre, vous devriez être libre de pouvoir convertir vos points en retraite. Mais ça, c'est trop de liberté maintenant, puisqu'on nous dit non, il faudra un âge pivot et vous serez pénalisé de 10% de votre droit sur la base de votre capital de points si vous partez à 62 ans. Donc vous voyez, tout ça, il y a beaucoup d'éléments de langage.
Qu'est-ce que vous dites? Que 1000 euros, c'est... Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Que 1000 euros, c'est insuffisant ou bien qu'en réalité, très peu de gens auront la possibilité de toucher ce minimum, puisque par exemple, peu de gens vont cotiser la totalité de leur vie à ce fonds donc de capitalisation, de répartition des retraites.
Oui. Les 1000 euros, si c'est le minimum contributif, c'est un petit peu plus que ce à quoi vous avez droit aujourd'hui pour une carrière complète. Le minimum contributif de la Sécurité sociale plus la retraite complémentaire, on est à 950 euros, 960 euros, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc c'est un peu plus. Donc si on nous disait aujourd'hui pour demain qu'on fait monter le minimum à 1000 euros, ce serait très bien. Mais je rappelle quand même qu'entre-temps, le SMIC a évolué et que l'engagement, c'était 85% du SMIC. Nous demandons d'aller à 100% du SMIC. Mais 1000 euros, ça n'est même pas 85% du SMIC aujourd'hui.
On se retrouve dans quelques instants, Yves Verrier. Vous serez rejoint par l'économiste Antoine Bozziaud. Il est co-auteur d'une tribune témoignant d'un certain nombre d'inquiétudes de la part d'économistes qui ont soutenu Emmanuel Macron et qui ne se reconnaissent pas ou ne reconnaissent pas en tout cas leurs idées dans cette réforme des retraites. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Réforme-t-on le paradis pour reprendre les termes de Frédéric Seitz? Il expliquait que c'était une forme de paradis laïque, la retraite. Pour en parler, je suis en compagnie d'Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, et nous accueillons l'économiste Antoine Bozziaud. Bonjour. Antoine Bozziaud, vous êtes directeur de l'Institut des politiques publiques, maître de conférence à l'EHESS et professeur associé à l'École d'économie de Paris. Alors, on vous présente, je dis on, mais Le Figaro, par exemple, du jour, comme l'un des inspirateurs de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, et malgré tout, vous êtes également le co-auteur d'une tribune, vous l'avez signée avec d'autres économistes proches d'Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry et Philippe Martin notamment, pour évoquer, comment dirais-je, votre distance, la distance que vous prenez par rapport à cette réforme et à la politique menée par Emmanuel Macron. Donc je vous propose de procéder en deux points. Tout d'abord, nous dire quelle était votre réforme, celle que vous souhaitiez, et pourquoi cette réforme aujourd'hui, celle menée par Emmanuel Macron, si l'on tente d'en deviner les contours, ne vous satisfait pas?
Eh bien, bonjour. Donc, la raison pour laquelle j'avais plus d'une dizaine d'années travaillé sur la question de comment on essaie de réformer notre système de retraite, réformer pour essayer d'en réparer plusieurs défauts. Le premier, c'est le fait qu'on a utilisé massivement la désindexation, c'est-à-dire l'indexation sur les prix plutôt que les salaires, pour faire baisser les droits à la retraite face aux évolutions démographiques. Et ça nous rend un système qui est en fait très incertain, on n'est pas très sûr de
savoir... Alors là, il faut que vous m'expliquiez...
En fait, quand vous prenez les projections du Conseil d'orientation des retraites, savoir quelles vont être les dépenses de retraite sur le long terme, en fait, ces dépenses de retraite, et donc les montants de retraite auxquels on peut s'attendre, ils sont très différents si la croissance va être faible, moyenne ou forte. Et plus la croissance est forte, plus nos retraites seront faibles par rapport à nos salaires. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout l'objectif d'un système de retraite. Un système de retraite, il vise à garantir un niveau de salaire qui soit en proportion de, un niveau de retraite qui soit en proportion de nos salaires. Et ça, en fait, c'est dans le fonctionnement finalement actuel du système, parce qu'on a beaucoup utilisé cette facilité d'indexation sur les prix plutôt que sur les salaires.
Donc vous procédiez avec cette réforme vers un système plus juste, un système qui permettrait donc de conditionner le montant des retraites à une évolution des salaires, c'est cela ?
C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le projet que j'avais en tête, que j'ai essayé de défendre auprès de nombreux partis politiques, syndicats, était de dire, on a quand même un problème. Si on garde un masse constante, un niveau de retraite constante, un âge de départ en retraite constante, on peut faire mieux. On peut faire mieux pour avoir un système qui réduit un certain nombre d'inégalités qu'on ne fait pas, qu'on ne souhaite pas et qu'on crée de façon incidente sans vraiment les maîtriser. Et on ne veut pas un système où on se donne une incertitude finalement sur le montant de pension qu'on peut garantir aux salariés. D'une certaine façon, on a choisi après-guerre la répartition pour essayer de limiter les risques et limiter l'incertitude, donner plus de garantie finalement à ce que sont les droits à la retraite. Et aujourd'hui, pour essayer de compenser l'évolution démographique de la hausse d'espérance de vie, on s'est engagé dans une désindexation des droits qui va faire que si on a suffisamment de croissance, ces droits-là vont baisser plus fortement et qu'on arrivera à l'équilibre ou pas, mais sans donner finalement de garantie à l'ensemble des salariés sur qu'est-ce qu'on est sûr d'obtenir en termes de retraite.
Alors ça, donc, c'était la réforme telle que vous la préconisiez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous déplaît dans le projet d'Emmanuel Macron en matière de réforme des retraites ?
Aujourd'hui, en fait, ce qu'on entend du gouvernement sur le pourquoi de cette réforme, ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas la réduction des inégalités de retraite, ce n'est pas plus de garanties, c'est on a un système qu'il faut réformer parce que sinon on n'est pas à l'équilibre, parce que sinon on a un problème budgétaire. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les données sur les questions de l'équilibre budgétaire, c'est pas vraiment l'équilibre budgétaire qui est en cause. On n'est pas dans cette situation-là. On peut avoir un centre d'ajustement, on peut discuter à quel rythme les faire. Mais si on est prêt à consacrer la somme actuelle qu'on consacre aux retraites, c'est-à-dire en gros 14% du PIB, on peut très bien maintenir l'équilibre de façon très pérenne dans le système. Donc ce n'est pas la raison principale.
Mais alors, le chiffre que j'évoquais tout à l'heure auprès d'Yves Verrier consistait à dire, il y a aujourd'hui le quart du déficit public qui est lié au paiement des retraites. C'est vrai ou c'est faux ?
Le quart, non, pas du tout. C'est-à-dire que si on
c'est une étude de l'Institut Molinari, institut très libéral, qui est aujourd'hui, par exemple, reproduite dans l'opinion.
Pas du tout. Donc, si vous regardez vraiment l'évolution des dépenses de retraite. En fait, ces évolutions de dépenses de retraite, elles vont être relativement stables. Il y a une petite hausse sur les prochaines années qui ensuite se restabilise, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Ma propre inquiétude, c'est plutôt que dire que si vous regardez les horizons plus lointains, on peut se retrouver dans le système actuel avec des fortes baisses de taux de remplacement.
En fait, ça veut dire quoi, une baisse du taux de remplacement ?
Le taux de remplacement, c'est la pension qui est rapportée à votre dernier salaire. Et si en fait les pensions, si la croissance est suffisamment forte et les pensions n'évoluent pas et que nos salaires continuent à évoluer, nos taux de remplacement vont baisser. Et là, c'est quelque chose, C'est une inquiétude.
Mais alors attendez, parce que c'est important, Antoine Bozio, on n'arrête pas de nous dire que c'est un système qui est déficitaire et que, bien entendu, les déficits sont dangereux. C'est faux, d'après vous ?
Le système, il y a une petite part de déficit qui est faible par rapport à l'horizon de long terme et qu'on peut très bien gérer dans l'horizon de long terme. Mais surtout, c'est qu'on ne sait pas l'équilibre de long terme. Vous ne savez pas le taux de croissance dans 20 ans ? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Ce qu'on veut, c'est de se donner des règles où, quelle que soit l'évolution économique, on puisse garantir des retraites en proportion de nos salaires.
Les régimes spéciaux, c'est un problème pour vous ?
Pour moi, c'est pas un gros problème. Ce ne devait pas être l'objet majeur de cette réforme. L'objet majeur de cette réforme, c'est d'essayer de retrouver, en grande partie pour les salariés du privé et du public, des règles similaires, où on ne se dit pas, d'un côté, on a des fonctionnaires qui ont une règle avantageuse, mais que sur 75% de leur rémunération, puis il y a 25% les primes qui donnent très peu de droits à la retraite. On ne peut pas avoir le cas d'enseignants, finalement, où on les laisse dégrader leur niveau de rémunération parce qu'on bloque l'évolution du traitement. Pourquoi ? Parce que tout le poids des retraites de la fonction publique pèse sur le coût du traitement. Ça, ce sont des vrais problèmes qui ont des conséquences et qui devraient être en fait vus, et la réforme devrait être vue par exemple comme au contraire un moyen de sortir de cette gestion peu amène des carrières de la fonction publique.
Pardonnez-moi Antoine Bozio, vous qui êtes économiste, je ne vois pas du tout le lien entre la réforme que vous préconisez et celle qui est censée être préconisée par le gouvernement. Je dis censée puisqu'on n'en connaît pas exactement les contours. On l'accuse, par exemple, de faire chuter les pensions pour un certain nombre de salariés et de fonctionnaires. Alors même que vous dites, finalement, il n'y avait pas vraiment de problème de déficit dans le système des retraites. Il y avait un problème plutôt d'anticipation avec un aléa qui s'agissait de faire baisser pour que il y ait moins d'incertitude sur le montant des retraites futures. Je vous ai bien suivi ?
Oui, et donc la question de fond, c'est qu'en fait, il y a une incertitude qui, je pense, est au sein de l'exécutif, sur savoir quel est le vrai objectif de cette réforme. Si le vrai objectif de cette réforme, c'est la réduction de la dépense de retraite pour réduire les dépenses publiques, alors là, on est sur quelque chose de très différent. Et alors là, évidemment, on va faire... Si l'objectif, c'est...
Alors ça, c'est pas du Antoine Bozio.
Ben ça, pas du tout. C'est pas... À aucun moment, c'est ça, j'ai pu suggérer de faire cela.
Yverrier, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, sur ce que vient de dire Monsieur Bozio, c'est intéressant, mais je voudrais d'abord faire remarquer une chose sur la question de l'indexation des pensions demain sur les salaires ou sur l'inflation. Le gouvernement semble répondre et il assène en ce moment un peu partout. On a bien entendu, la valeur du point sera indexée sur les salaires. Mais il faut rentrer là aussi dans les détails. C'est la valeur d'achat du point qui augmentera avec le salaire. Donc votre point en rapport à votre salaire vous coûtera toujours le même prix, ni moins ni plus cher, en proportion. La valeur de service, nous dit-on, pourrait être elle aussi en fonction de l'évolution des salaires. Donc c'est pratiquement du coup nul, quoi, en quelque sorte. Mais par contre, pour ceux qui seront, une fois les points transformés en retraite, en pension, ça continuera d'être indexé sur l'inflation. C'est ce que j'ai lu dans le rapport du haut commissaire et c'est ce que j'ai cru comprendre à nouveau de la synthèse qu'il en a faite. Autrement dit, on n'a pas du tout répondu à ce que Monsieur Bozio vient de dire sur comment faire pour garder un taux de remplacement au fil du temps de la pension sur ce qu'était votre salaire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, si on ne raisonne qu'en termes de dépenses, parce que on nous dit 14 points de PIB, et avec ces 14 points de PIB, ce que représentent les prestations de retraite aujourd'hui, les 314 milliards d'euros à peu près annuels, on peut faire mieux du point de vue du taux de remplacement, c'est-à-dire garder ce taux de remplacement en fonction du salaire à l'avenir. Oui, mais comment ? Parce que c'est ça la question. Si on ne parle qu'en termes de dépenses, évidemment, on a vite un problème. Qui mettons à contribution dans ceux qui sont les bénéficiaires des retraites ? Et on doit parler aussi en termes de recettes. Et la question des recettes, elle est majeure sur cet équilibre. Et la question des recettes, c'est l'emploi
d'abord résoudre le problème du chômage, deux, la précarité, les emplois précaires, les temps partiels subis, trois, les petits salaires, c'est souvent les femmes qui subissent ces difficultés et qui, le moment venu, se retrouvent en difficulté, et quatre, Conseil d'orientation des retraites disait qu'un pour cent d'augmentation de la cotisation, et ça, c'est comment on rééquilibre la richesse produite par l'économie en général et les entreprises en particulier, en termes de redistribution sur les salaires et les cotisations sociales qui alimentent les recettes des régimes de retraite.
Alors, si on continue sur cette réforme des retraites et celle que vous préconisiez, Antoine Bozio, une réforme par points, autrement dit, l'introduction de points retraite, est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que ça introduit un aléa? Parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui inquiets en se disant qu'on ne connaît pas la valeur du point et que c'est une manière de diminuer le taux de remplacement lorsque ces gens-là seront à la retraite. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes économiste?
Donc, dans la proposition que j'avais faite initialement, on accumulait des droits et que ces droits étaient inscrits, enregistrés en euros. Pourquoi ? Parce que au moment de la conversion, pour éviter qu'on puisse se poser un risque que la valeur du point puisse être manipulée, on se disait, on peut donner une règle où, vous voyez, l'accumulation des droits en euros, et progressivement on voit sur notre contre-retraite, notre retraite se manifester progressivement en euros et apparaître au fil de la carrière. Donc, le fait d'utiliser des points, en soi, c'est pas forcément un problème. À l'Agirc-Arrco, dans les régimes complémentaires, les partenaires sociaux gèrent un système en points, ils sont capables de le piloter, donc on peut très bien faire un système en points. La raison pour laquelle, pour le coup, le gouvernement a choisi plutôt d'utiliser des points, c'est de se dire, bah, les partenaires sociaux connaissent, les Français, au moins dans le secteur privé, connaissent, parce qu'ils ont tous une retraite complémentaire, donc ça va être plus facile d'en faire la pédagogie. Mais pour beaucoup, quand même, se dire, bah, le point, cette valeur du point qui va la fixer, comment elle va évoluer, ça, c'est une vraie interrogation. Alors là, j'entends bien le gouvernement dire, ah oui, oui, mais on est bien conscient, il y aura bien une règle. Et je pense que c'est très, très important. Le fait d'avoir une règle sur la valeur du point, ça veut dire qu'on ne va pas s'autoriser à la bouger chaque année.
Mais Antoine Bozio, pourquoi est-ce si peu transparent? Puisque en économie, on n'arrête pas de nous expliquer que finalement, l'un des problèmes majeurs, c'est de réduire l'incertitude. Les agents économiques détestent le risque et l'incertitude. Or là, on a un système qui est, c'est pas lié à ce gouvernement-là uniquement, on a un système qui est complètement opaque, qui est très difficile à décrypter. Pourquoi?
Ah ben ça, c'est le produit de notre histoire. On a créé des couches différentes de notre système de retraite avec des règles différentes et sans jamais avoir vraiment essayé ou réussi à essayer de leur donner une certaine forme de cohérence. C'est pour ça que au départ dans le projet que j'ai essayé de défendre, c'était de se dire que si maintenant, parce qu'on a fait quand même un certain nombre de réformes dans le passé, on est arrivé à une forme de stabilisation de l'équilibre de notre système, c'est le bon moment d'essayer de résoudre des problèmes de fond, parce que justement, on ne va pas essayer de faire une réforme qui réduit les droits en même temps qu'on essaie de faire une réforme plus structurelle pour en résoudre des problèmes.
Alors, parmi vos propositions, donc on a bien vu qu'il fallait clarifier la valeur des points, c'est évident. La seconde proposition de cette tribune que vous signez avec d'autres économistes qui ont été très présents dans la campagne d'Emmanuel Macron et marquent leur distance aujourd'hui par rapport à cette réforme des retraites, c'est de renoncer à l'âge pivot. Qu'est-ce que ça veut dire, Antoine Bozio?
Dans un système à point où vous n'avez pas forcément besoin d'un âge, vous n'avez pas besoin d'un âge pivot.
Puisqu'en fait, vous pouvez liquider
puisque
votre retraite.
Vous accumulez, plus vous travaillez, plus vous avez de points. Et si vous, à chaque âge, vous pouvez liquider cette retraite. Si vous partez plus tard, votre retraite sera plus importante. Mais il n'y a pas besoin d'en fixer un point de référence, une norme. Alors après, je suis pas opposé à l'idée qu'on donne de l'information, un point de référence aux salariés pour leur dire, est-ce que vous avez atteint un bon niveau de retraite? Est-ce que vous avez atteint, je sais pas, 75%, 70% de votre dernier salaire? Fixer une référence pour éviter que on puisse se laisser collectivement à partir trop tôt avec des trop faibles retraites. Mais par contre, l'idée de dire, regardez, on a un nouvel âge de la retraite, c'est 64 pour tout le monde, avant c'est pénalité, après c'est bonus, c'est essayer de faire en sorte de cristalliser un nouvel âge de la retraite et dire qu'en fait l'âge de la retraite a augmenté. Alors qu'en réalité, rien n'a vraiment changé de ce côté-là.
Yves Verrier, opinion du chef. Une gouvernance transparente, enfin, c'est l'autre point que vous abordez toujours dans cette tribune. Est-ce que cette règle des 14% du PIB, autrement dit, pour simplifier, 14% de la richesse nationale va au paiement des retraites, est-ce que ça, c'est une règle d'airain?
Non, c'est pas une règle d'airain, c'était quelque
Alors
chose
Alors pourquoi la fixer?
Mais moi, je suis pas pour qu'on la fixe, je suis pour qu'on parte du point où on est aujourd'hui. On part d'aujourd'hui de 14%, donc c'est la bonne façon de se dire « faisons une réforme à budget constant », c'est-à-dire qu'on n'est pas en train, en même temps, de changer, de dire ni qu'on baisse, ni qu'on augmente, on essaye de, à budget constant, d'essayer de se redonner des règles, et après, dans la gouvernance, on doit se dire, à l'horizon des décennies qui viennent, est-ce qu'on souhaite augmenter ? À quel rythme ? Comment ? Ou pas ? Et ça, ça doit être une décision dont on doit retrouver le caractère, finalement, démocratique. C'est pas une décision qui vient technocratique, c'est un vrai choix politique. Est-ce qu'on souhaite plus pour les retraites ou plus pour autre chose ? Pour financer la transition écologique, pour réduire, pour augmenter nos financements dans l'éducation, la santé. Ce sont des vrais choix politiques, mais au moins qu'on les retrouve. Et ce qui, je trouve, un petit peu dramatique dans le système actuel, c'est qu'on a perdu ce point-là comme un des paramètres centraux de notre débat public sur les retraites.
Yves Verrier, alors vous représentez ici Force ouvrière, mais il y avait beaucoup de doutes chez les syndicalistes en matière donc d'orthodoxie budgétaire sur ces 14% du PIB qui iraient au paiement des retraites. Est-ce que vous, par exemple, c'est un pourcentage qui devrait être abandonné ou amendé ?
Encore une fois, la question, on a l'impression que les gouvernements ne savent plus que gérer la dépense, ce qu'ils appellent la dépense publique. À chaque fois, la question est celle de l'économie. Est-ce que on est encore en situation d'être capable de créer de l'emploi ? Je me souviens que pendant la présidentielle, il y avait un débat, nous n'étions pas favorables, nous FO, à l'idée d'un revenu universel qui pallierait les défauts de l'économie en matière de création d'emplois pour tous suffisamment rémunérateurs. Et c'est ces questions-là qui doivent être également posées. Encore une fois, effectivement, il y a un choix démocratique, politique, de ce que l'on consacre à la retraite, mais si on n'est déjà pas capable de faire en sorte que tout le monde ait un emploi à temps plein, pérenne, de l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de partir à l'âge de la retraite, c'est illusoire de vouloir faire travailler plus longtemps ceux qui ont encore du boulot au moment de l'âge de départ en retraite. Et le grand défaut, d'ailleurs, de l'âge pivot, ça n'est pas tellement qu'on va faire travailler plus longtemps les salariés, c'est que ceux qui ne pourront pas faire autrement parce que, y compris pour des raisons de santé, partiront à 62 ans, eh bien, ils auront une pension qui sera amputée de leurs droits malgré qu'ils auront leur capital de points et qu'ils étaient en situation de pouvoir faire valoir ce capital de points en pension intégralement. On va les amputer de 10... Bon, et puisqu'on fait beaucoup de comparaisons, notamment avec les pays nordiques, et ce qu'on peut consacrer aux retraites ou non, regardez sur l'OCDE, 14 points de PIB en France sur les retraites, c'est 3 points de plus que les pays nordiques. Les pays nordiques, c'est 3 points de plus en matière de dépenses publiques consacrées à l'invalidité.
Dernier point important, Antoine Bozziaud, vous qui êtes économiste et faites cette tribune pour dire que la méthode du gouvernement n'est pas forcément la bonne en matière de réforme des retraites, vous souhaitez proposer une méthode et une stratégie de transition pour la fonction publique. Là aussi, c'est important. En quoi celle-ci pourrait consister ? Est-ce que là aussi, il y a un lien avec la génération pour laquelle il y aura un basculement dans le nouveau système de retraite ?
Donc dans la fonction publique, on a une situation où on a à peu près un quart de la rémunération des fonctionnaires en moyenne qui est sous forme de primes, qui donne très peu de droits à la retraite. Et on a les trois quarts qui sont sous forme de traitements, qui donnent des droits à la retraite plus élevés sur le traitement que dans le secteur privé. Mais en moyenne, si vous prenez la moyenne, primes, tout ça, les fonctionnaires ne sont pas avantagés, parce qu'ils ont cette part de rémunération sous forme de primes qui donne peu de droits à la retraite. Mais donc... là, il y a quand même un problème, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce que fait l'État ? Du coup, il dit bah, « je vais bloquer la valeur du traitement, le point d'indice, puis je vais augmenter le nombre de primes ». Mais ce faisant, pour essayer de finalement limiter la hausse des droits à la retraite, il réduit, il dévalorise les carrières des fonctionnaires qui sont largement rémunérés sous forme de traitement. Qui sont-ils ? Ce sont les enseignants, principalement. Donc, les rémunérations des enseignants, depuis une quinzaine d'années, se sont dégradées par rapport non seulement aux autres fonctionnaires, mais aussi au secteur privé. Pourquoi ? Bah parce que ce mécanisme-là d'essayer d'équilibrer le système de retraite dans la fonction publique est problématique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut arriver à refaire converger, c'est-à-dire intégrer les primes dans les droits à la retraite et revaloriser les traitements des enseignants.
Merci Antoine Bozio, vous qui êtes économiste et qui avez signé, co-signé cette tribune pour dire que la réforme des retraites mériterait d'être amendée. Et merci à vous, Yves Verrier de Force Ouvrière, de nous avoir exposé votre point de vue sur cette réforme des retraites et les différents mouvements sociaux qu'elle suscite.